pour nous présenter à ses pieds et pour être à son écoute. Et si vous avez donc entendu quelque chose de l'Esprit cette semaine, ce serait un bon moment de le partager. Et sinon, dans tous les cas, ce sera un moment de venir encore une fois devant notre Dieu pour tout remettre entre ses mains. Et pendant le message de dimanche dernier, nous avons constaté que dans la Bible, le jeûne est présenté comme une sorte de prière. Une prière qui exprime par le moyen de notre corps ce que nous n'arrivons pas toujours à exprimer par nos mots. La profondeur de notre faiblesse humaine et donc la profondeur de notre besoin de Dieu. Et nous avons vu que dans la Bible, ce genre de prière se produit surtout face à trois aspects de notre vie. Le deuil, le péché et la mission. Parce que face à ces trois réalités, nous ressentons vivement notre faiblesse et notre insuffisance, comme Nathalie l'a dit ce matin. Et nous avons vu donc comment Moïse et Jésus ont jeûné avant de commencer leur ministère, et l'apôtre Paul aussi. Et tout ça pourrait donner l'impression, peut-être, qu'on devrait jeûner presque tout le temps. Parce que nous sommes toujours devant une mission. Et c'est toujours bien d'exprimer notre besoin de Dieu, n'est-ce pas? Surtout lorsque nous venons de vivre un moment fort ensemble pendant le jeûne, comme cette semaine, nous pourrions nous dire, bah alors, on va jeûner chaque mois, on va jeûner chaque semaine, chaque jour. Je ne sais pas si vous avez cette impression, peut-être que vous êtes en train de vous dire, bah absolument pas, c'était vraiment trop difficile, on ne va pas refaire. Mais si c'était un moment fort, ou si vous vous constatez que c'est très important de venir devant Dieu dans cette attitude d'humilité et de besoin, on pourrait se dire, bah pourquoi pas le faire tout le temps. Et certaines églises dans l'histoire du christianisme ont décidé justement de faire cela, notamment certaines branches de l'église catholique. Mais la question pour nous aujourd'hui, c'est, est-ce que c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre? Sommes-nous appelés à vivre dans un état de deuil et de privation perpétuelle? Dans un état de tristesse perpétuelle? À cause de nos faiblesses et notre péché? Et sinon, comment vivre alors? C'est clair qu'on n'est pas appelé à vivre comme les gens qui cherchent le plaisir à droite et à gauche et qui ne se privent de rien dans ce monde. Mais est-ce qu'on s'abstient de tout plaisir alors? La réponse peut sembler évidente, peut-être, mais si nous disons non, c'est pas ça notre appel. Savons-nous pourquoi? La Bible nous dit de jeûner, mais est-ce qu'elle nous dit aussi de bien manger, d'avoir un festin? Et si oui, pourquoi? Donc, aujourd'hui, un festin, pourquoi? Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur un passage clé dans les évangiles où Jésus lui-même parle du jeûne et aussi de ne pas jeûner. C'est l'un des passages les plus connus sur le jeûne, mais pas toujours le plus facile à comprendre. Et on va commencer donc en essayant de décortiquer un peu ce passage et puis on parlera des implications pour nous. Lisons ensemble donc Matthieu 9, versets 14 à 16. C'est sur l'écran, mais vous pouvez trouver dans vos Bibles aussi, si vous voulez. Matthieu, chapitre 9. Alors, les disciples de Jean-Baptiste, les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent, « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ?» Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourrait-il être triste tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du mou qui fermentent, sinon le vin nouveau les fait éclater. Il se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Et pourquoi Jésus parle-t-il d'une noce, d'un vieux manteau et d'un vin nouveau dans sa réponse à une question assez simple? Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? C'est comme le début d'une mauvaise devinette. Quel est le point commun entre un mariage, un vieux manteau et un vieil outre de vin? Et Jésus ne donne pas la réponse à cette devinette. Mais la raison pour laquelle il la donne pas, c'est parce qu'elle aurait été assez claire pour les disciples de Jean et de Jésus. Rappelons-nous d'abord que tout au long de la Bible, Dieu lui-même est décrit comme l'époux de son peuple. Il aime son peuple comme son épouse et il fait une alliance avec elle, comme un mariage. Ça se voit très souvent dans l'Ancien Testament et cette image revient à plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Mais maintenant, à l'époque de Jésus, le peuple juif se sent abandonné par Dieu. Les Romains contrôlent Jérusalem et pour le peuple d'Israël, c'est comme s'ils étaient encore en exil. Et donc, ils jeûnent pour porter le deuil. Et ils jeûnent aussi pour exprimer leur repentance en espérant que Dieu verra leur situation et viendra à leur aide en établissant son règne sur terre. C'est-à-dire, ils jeûnent pour que l'époux du peuple, Dieu lui-même, vienne. C'est pour ça qu'ils jeûnent, les disciples de Jean et des pharisiens. Et donc, la réponse de Jésus est assez simple. Il n'y a plus besoin de faire tout ça parce que voilà, je suis là. C'est ce qu'il leur dit. Voilà, je suis là. Si tu jeûnes pour porter le deuil pour quelqu'un, et puis cette personne arrive, ben vas-tu continuer à jeûner? Bien sûr que non. Tu vas être dans la joie. Tu vas fêter. Surtout si c'est ton fiancé qui arrive. Tu vas avoir un festin. Un festin de mariage. Et à un mariage, on se régale. On chante et on danse. Et si c'est l'union de Dieu avec son peuple, c'est pas juste au mariage qu'on fait la fête. Toute la vie devient un festin. Et donc, c'est ainsi que le prophète Ésaïe décrit le règne de Dieu sur terre, dans le passage qu'on a lu pour la Sainte Cène. Et je vais le relire. Ésaïe, chapitre 25, verset 6. « Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents pleins de moelle, de bon vin clarifié. » Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Et qui est-ce qui engloutira la mort pour toujours? C'est Jésus. Jésus efface le deuil. Jésus efface les larmes, essuie les larmes de tous les visages. C'est lui aussi qui fait disparaître notre honte en pardonnant nos péchés. C'est Jésus qui accomplit toutes ces choses décrétées par l'Éternel au prophète Ésaïe. Et c'est pour ça que ses disciples ne jeûnent pas, parce qu'il est avec eux. Et face à lui, les raisons pour le jeûne disparaissent. Face à Jésus, les raisons pour le jeûne disparaissent. Et donc, ça veut dire que les disciples ne peuvent plus vivre comme avant. C'est ça l'idée des deux dernières illustrations que Jésus donne comme réponse. L'étoffe nouvelle et le vin. Dans chacune, il y a quelque chose de nouveau qui ne va pas avec ce qui est ancien. Ils se détruisent en fait si on les met ensemble. Je suis comme de la nouvelle étoffe, Jésus dit. N'essayez pas de me mettre comme une pièce sur votre ancienne façon de vivre, sur l'ancienne alliance, parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis la nouvelle alliance. Je suis un nouvel habit entier avec qui tu peux te revêtir. Je change tout, Jésus dit. C'est ça qu'il est en train de dire dans ce passage. Je change tout. Et même chose pour cette illustration du vin. Tu me mets dans votre ancienne façon de penser et ça va s'exploser. Mais laisse-moi te renouveler et tout sera renouvelé. Jésus n'est pas venu simplement pour réparer ce qui n'allait pas. Il est venu pour faire quelque chose de nouveau. Et c'est vrai pour nous aussi. Jésus vient vers nous là où nous sommes, mais n'imaginons pas qu'il va nous y laisser. La présence de Jésus dans notre vie change tout. C'est là toute la joie de notre foi. Une joie qui ne peut pas que rayonner dans notre vie dès que nous la saisissons. Mais il nous reste quand même un petit bémol dans ce passage, et c'est la deuxième moitié du verset 15. Si vous faites attention, vous l'avez vu. C'est une phrase qui tombe dans cette belle image du festin des noces comme un coup de foudre. Jésus dit, « Le temps viendra où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Et d'un coup, le temps redevient sombre. C'est la joie complète d'être dans la présence de Jésus. Mais pour les disciples, cette joie ne va pas durer. Jésus sera enlevé et les disciples vont emporter le deuil. Mais là, il faut faire attention. Parce qu'à quoi pensez-vous quand vous lisez ce verset? Parce que moi, j'ai constaté que moi au moins, quand je lis ce verset, je pense très vite au moment où Jésus quitte ses disciples après sa résurrection, au début du livre des Actes. Et donc moi, j'imagine très facilement que Jésus est en train de dire ici dans ces versets, ben voilà, tout est bien maintenant parce que je suis avec vous, mais bientôt je vais vous quitter. Et donc voilà, à ce moment-là, vous allez encore jeûner, tout comme avant. Vous et toute l'Église pendant des siècles et des siècles, en m'attendant, vous allez porter le deuil tout comme avant. Et peut-être je pense ça en partie parce que dans les traductions françaises de la Bible, c'est le même mot, enlevé. On lit, Jésus est enlevé au ciel, en Actes 1, 11. Tout comme ici en Matthieu 9, Jésus dit qu'il sera enlevé. Mais en fait, ce n'est pas le même mot dans les textes originaux, et il faut le savoir. Les traductions françaises le font ainsi, mais ce n'est pas le même mot. Et en tout cas, ce n'est pas le même genre d'événement. Parce que nous avons vu à maintes reprises pendant cette série sur le livre des Actes, ce qui se passe en acte 1, ce n'est pas un simple enlèvement. C'est l'ascension d'un roi. En acte chapitre 1, ce n'est pas que Jésus quitte la terre, c'est qu'il monte au trône. C'est pas la même chose. Et donc ici, dans ce verset, Jésus ne parle pas de son ascension au trône. Il parle de sa crucifixion. Pendant les 3 jours où Jésus était dans le tombeau, ses disciples étaient dans le doute. Ils étaient accablés. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils portaient le deuil pour Jésus. Mais à sa résurrection, tout change. Parce que, justement, l'époux est de retour. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus le dit extrêmement clairement. Et il faut retenir cela. Jésus dit à la fin du livre de Matthieu, « Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous. Et c'est pour cette raison que nous insistons tout au long de cette étude du livre des Actes que l'ascension de Jésus n'est pas un départ de la terre. C'est son ascension au trône. Et le livre des Actes raconte en réalité les actes de Jésus. Et alors, si Jésus est encore avec nous, comme nous lisons dans l'évangile de Matthieu, si Jésus est encore avec nous par son esprit, pourquoi jeûner? C'est ça la question, finalement. Comment porter le deuil si le marié est avec nous, comme Jésus dit? Et pourquoi avons-nous l'exemple des disciples en Actes qui jeûnent? Même après la résurrection et l'ascension de Jésus, nous avons Paul qui jeûne en Actes 9, nous avons les disciples qui jeûnent en Actes 13 et 14. Ils jeûnent parce que voici la tension dans laquelle nous vivons tous. Jésus est avec nous, mais pas encore de la manière qui sera un jour. Justement, pour la scène, nous avons lu que Jésus dit à chaque fois que vous faites ce repas, vous le faites en mémoire de moi et vous annoncez ma mort jusqu'à mon retour. Il va revenir. Et donc, il n'est pas avec nous de la même manière qu'il sera un jour. Il est roi, mais pas encore de la même manière qu'il sera un jour. Et son règne, son royaume est venu, mais pas encore pleinement, comme il sera un jour. Sa venue a tout changé, c'est vrai, et on ne peut pas vivre comme avant. Mais ce n'était que le début de la fin. Et nous attendons encore la fin de la fin. Nous vivons à la fin des temps. Mais Jésus était le début de la fin. Et nous attendons la fin de la fin. C'est comme nous avons vu en parlant de la maladie et de la guérison, par exemple. La mort a été vaincue. Mais elle reste quand même le dernier ennemi qui sera anéanti au retour de Jésus. Et le péché a été vaincu parce que nous sommes pardonnés. Mais nous luttons encore contre le péché dans notre vie de tous les jours. Et à la croix, Jésus a tout accompli. Mais il nous reste des choses à faire dans ce monde en tant que ses témoins. Il y a cette tension. C'est toute la tension de cet âge du monde. C'est là toute la tension que nous expérimentons dans notre vie. Le déjà et le pas encore. Le royaume est venu et le royaume vient et le royaume viendra. Il faut bien savoir conjuguer vos verbes pour faire la théologie. Le royaume est venu, le royaume vient et le royaume viendra. Et donc nous jeûnons encore. Mais nous faisons la fête aussi. Et quand nous ne jeûnons pas comme avant. Nous ne pouvons pas parce que Jésus change tout. Considérons donc encore une fois les trois raisons pour jeûner que nous avons vues dimanche dernier. Le deuil, la repentance et la mission. Et nous verrons que ces trois raisons de jeûner sont maintenant également trois raisons pour faire la fête. Aide-moi. Commençons par le deuil. Après la résurrection de Jésus, on ne porte plus le deuil de la même manière qu'avant. Bien sûr, les souffrances de cette vie sont réelles et il ne faut pas le nier. Mais rappelons-nous aussi que l'apôtre Paul nous dit en 1 Thessaloniens 4, nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Notons bien ce que Paul ne dit pas. Il ne dit pas « Nous ne voulons pas que vous soyez tristes ». Il dit « Nous ne voulons pas que vous soyez tristes de la même manière que ceux qui n'ont pas d'espérance ». Nous ne portons pas le deuil de la même manière que ceux qui n'ont pas d'espérance. Je ne sais pas si vous avez jamais eu le privilège d'assister aux obsèques d'un croyant où les gens ont fêté la vie de la personne et ils ont fêté aussi la résurrection de la personne. Mais ça peut être une chose très très belle. Oui, on pleure aux obsèques. Mais on peut pleurer de tristesse et de joie avec les mêmes larmes. La présence de Jésus, sa venue, sa résurrection, son retour, ça change tout. Et donc, oui, on peut jeûner pour porter le deuil, parce que nous sommes impuissants devant la mort. Mais nous fêtons aussi, parce que Jésus ne l'est pas. Nous sommes impuissants devant la mort, mais Jésus ne l'est pas. Et donc, nous fêtons. Et oui, nous pouvons aussi jeûner pour exprimer notre repentance, parce que nous avons tous de quoi se repentir. Nous lisons en 1 Jean chapitre 1 verset 8, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. » Et cela devrait nous attrister. Cela devrait nous attrister, notre péché, comme les Corinthiens en 2 Corinthiens 7, ce que nous avons vu la semaine dernière. Notre péché devrait nous attrister. Et pourtant, rappelons-nous, mes frères et mes sœurs, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et si vous avez mis votre foi en Christ, vous êtes en Christ. Et ça veut dire que si nous jeûnons pour exprimer notre repentance, ce n'est plus pour chercher le pardon. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes déjà pardonnés. Si nous sommes en Christ, nous avons déjà le pardon. C'est pour dire tout simplement que nous regrettons notre péché et pour inviter l'Esprit de nous remplir de nouveau. Oui, nous pouvons dire à Dieu, pardon, pardonne-moi. Mais ce n'est pas pour chercher le pardon, c'est pour dire que nous regrettons notre péché. Et donc encore, comme nous avons dit pour le deuil, oui, nous pouvons jeûner, mais nous fêtons aussi. Nous fêtons parce que nous pouvons venir devant Dieu librement par le sang de Jésus, sachant qu'il nous a déjà pardonnés. Jésus a fait disparaître notre honte. Alors, finalement, jeûner pour se préparer à la mission. Comme j'ai déjà dit, même après l'ascension de Jésus à la droite du Père, il nous reste des choses à faire. Nous sommes son corps. Tout le livre des Actes qu'on est en train d'étudier nous enseigne que nous sommes ses témoins. Et cela est un combat. C'est tout à fait naturel qu'on jeûne pour s'y préparer. Tout comme Moïse et Jésus et Paul et les disciples. Que nous jeûnons pour nous mettre devant Dieu et à son écoute, pour chercher sa volonté. Mais notons encore l'exemple de Jésus. Quand est-ce que Jésus jeûne? Il jeûne en Matthieu 4, avant de commencer son ministère. Il jeûne pour se préparer à la mission. Mais pour accomplir sa mission, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Dans les évangiles, Jésus est connu pour avoir mangé avec les gens. Vous connaissez l'accusation qu'on entend souvent. Il mange avec les pêcheurs et les collecteurs d'impôts. En effet, c'est justement cela qui a provoqué la question des disciples de Jean dans notre passage d'aujourd'hui. Et donc, j'aimerais lire les versets juste avant ce qu'on a déjà lu. C'est en Matthieu 9, versets 10 à 13. Voilà l'arrière-plan pour ce qu'on a déjà lu. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires ?» Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Les bien portants n'ont pas besoin d'un médecin, ce sont les malades qui en ont besoin. » Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices ou des jeûnes. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, par le jeûne, Jésus se prépare à la mission. Mais la mission elle-même, c'est au moins en grande partie de passer du temps en convivialité avec les gens du peuple, de faire preuve d'amour envers les autres, en mangeant avec eux, bien avant qu'ils décident à le suivre. Et on ne sait même pas si les personnes dans ce passage s'y décident même à suivre Jésus. Jésus n'hésite pas à s'attabler avec toutes sortes de gens qui n'auraient pas été bienvenus chez des gens respectables, comme les pharisiens ou comme les disciples de Jean même. Et pourquoi? Pourquoi Jésus mange avec ces personnes? Parce que c'est comme ça que son royaume s'annonce. Jésus annonce son royaume en parlant, mais aussi en le vivant. Et dans le royaume de Dieu, toute personne est bienvenue. Quoi de mieux pour annoncer un royaume dans lequel le maître de l'univers prépare pour tous les peuples un festin que de manger avec eux? Et ce n'est pas juste que Jésus annonce le royaume ainsi, il l'amène ainsi, il l'instaure en mangeant avec les gens, en mangeant avec les autres. Et les faisant preuve d'amour, le royaume arrive sur terre. Et c'est aussi vrai pour nous. Nous amenons le royaume de Dieu sur terre quand nous mangeons et quand nous faisons preuve d'amour aux autres. Quand on vient à table, on est dans l'intimité. On partage la nourriture qui soutient notre corps, mais on partage également la communion qui nourrit notre âme. Le repas de fête est donc une image du royaume. Et ça fait partie du royaume, du règne de Jésus ici maintenant. Et ça fait partie donc de notre mission en tant que ses témoins. Dieu nous appelle à partager la vie avec les autres, de les connaître, de leur faire goûter de la joie qui est la nôtre et de les nourrir avec la parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus a accompli sa mission, en mangeant avec les gens, en nourrissant la foule, avec le pain et la parole. Et c'est dans ce même esprit que nous pouvons nous engager dans la mission qu'il nous confie. Nous pouvons faire cette mission de façon bien littérale, manger avec des gens, partager la vie de tous les jours avec ceux qui nous entourent, et surtout leur montrer la joie que nous avons d'être enfants de Dieu. Parce que finalement, comment le faire autrement? Comment être les témoins d'un roi si bienveillant si on n'est pas prêt à vivre dans la joie? L'une des matières préférées de mes enfants à l'école, c'est la musique. Et en général, après une journée à l'école, quand je leur demande « qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ?», elles me répondent « je ne sais pas grand-chose, des trucs, machin. » Sauf si elles ont fait de la musique. Et dans ce cas-là, j'entends toute une histoire de ce qu'elles ont chanté, avec quels instruments, et si j'ai de la chance, elles me chantent un peu dans la rue, même en rentrant à la maison. Mais imaginez qu'elles avaient un cours de musique dans lequel elles ne chantaient pas. Si elles apprenaient que le solfège et l'histoire de la musique et les noms des instruments. Et je sais que tout ça, c'est important, mais pas très inspirant. Et en plus, mes filles n'auraient aucune idée de ce que c'est vraiment de faire la musique si elles ne chantaient pas. Et c'est pareil pour nous et le règne de Dieu. Le monde ne peut pas comprendre ce que c'est le règne merveilleux de Dieu si nous, les témoins, ne le vivons pas, si nous ne vivons pas dans la joie. Ça n'a pas de sens d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu avec les sourcils français. Oui, il faut parler de la vérité. Il faut enseigner la vérité, mais il faut le vivre aussi. Et non pas seul dans notre coin. La vérité que nous annonçons est réjouissante. C'est la bénédiction et la bonté et la joie et la justice. C'est un festin. Si nous sommes appelés parfois à jeûner ensemble de façon occasionnelle, n'oublions pas que Dieu nous ordonne de manger ensemble de façon délibérée et régulière. Et là, je parle des repas ensemble, comme on voit dans le livre des Actes, mais aussi de la Sainte Cène. Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas un hasard que Jésus a choisi un repas pour symboliser sa mort. C'est un festin, en fait, la fête de la Pâque. Une fête qui commémore la délivrance d'Israël des Égyptiens. Mais maintenant, Jésus nous dit, ce festin commémore votre délivrance du péché et l'instauration de mon règne. La Sainte Cène est le festin de victoire de Jésus. C'est le festin de victoire. Est-ce que nous le vivons ainsi, quand nous faisons la Sainte Cène, quand nous avons un repas fraternel après le culte, est-ce que nous y voyons le repas, le festin de victoire de Jésus? La Sainte Cène annonce donc à la fois ce que Jésus a accompli à la croix, mais aussi ce qu'il va accomplir à son retour. Le festin de l'agneau dont on lit en Ésaïe et Apocalypse. À la fin du livre de l'Apocalypse, il y a le festin de l'agneau, le festin du mariage de l'agneau, l'union entre l'humanité et Dieu lui-même. Et ça veut dire que quand on fait la scène, c'est un moment de solennité, mais aussi de joie immense. Alors, comment sommes-nous appelés à vivre, alors? Pas juste ici, pour la scène ou pour nos repas fraternels, mais dans notre vie de tous les jours, comment sommes-nous appelés à vivre? Je pense que c'est notre tendance humaine d'imaginer que, puisqu'il faut s'abstenir de certaines choses, comme l'ivrognerie, la débauche, ainsi de suite, que c'est toujours plus spirituel de se priver que de se permettre. Et puisqu'il faut être attristé à un certain moment par notre péché, nous imaginons que c'est plus spirituel de se repentir que d'accepter le pardon avec joie. Et puisque Jésus nous dit qu'il faut le suivre en portant notre croix, nous imaginons que c'est toujours plus spirituel de poursuivre une mission qui est pénible que de poursuivre une mission qui nous donne la joie. Mais l'apôtre Paul dit clairement en Romains 14 que ce n'est pas ce genre de choses qui compte. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'esprit à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Et c'est le roi David qui proclame au psaume 32 « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. » Sommes-nous appelés à vivre dans le deuil, attristés par nos péchés, toujours conscients de notre faiblesse humaine? Parfois, oui, mais pas comme avant. Toutes ces choses existent toujours. Mais la venue de Jésus change tout. Il essuie nos larmes, il enlève notre honte, sa joie nous rend forts pour notre mission. Et cette semaine, que notre joie et notre bonheur et notre service soient un festin pour nos familles. Que notre vie soit un festin pour cette ville. Une table à laquelle sont invitées toutes les nations de la terre. Soyons dans la joie. car c'est l'Éternel, le maître de l'univers, qui a décrété ces choses et qui dresse cette table. Prions ensemble. Notre Dieu, l'Éternel, nous réjouissons devant cette table. Nous réjouissons d'être tes enfants. Nous nous réjouissons de voir à quel point tu nous aimes. C'est toi qui as enlevé notre honte. C'est toi qui essuies nos larmes. C'est toi qui nous donne la joie. Que nous soyons aussi une joie pour cette ville, pour nos familles, pour ce monde que tu aimes tant. Au nom de Jésus. Amen.
Je vous invite à vous lever pour un dernier chant.